Bonjour à tous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Tu me donnes vraiment l'occasion de parler de ton message, Seigneur. Venez chacun de nous, moi y compris, Seigneur, que je puisse vraiment donner, délivrer le message de ta part, Seigneur. Que ce message puisse encourager tous ensemble, nous puissions croître tous ensemble pour la gloire du Père. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le psaume, j'ai choisi de ce psaume-là. J'aime beaucoup ce psaume. En fait, pour vous parler un peu du contexte du psaume, dans le texte hébreu, la collection entière, c'est dans le nom de louange. Et plus tard, les rabbins l'ont souvent appelé le livre, ça sonne beaucoup, non ? De louanges. Ils sont utilisés comme recueil de chants au deuxième temple. C'est seulement à partir de la traduction grecque de l'Ancien Testament, la version de Septante, qu'on lui a donné le nom psaume. Et en grec, ça veut dire gratter ou faire vibrer les cordes. Tu me corriges, Anne-Marie, si c'est... Donc, ça veut dire qu'avec le psaume, il y a un accompagnement musical. Alors, le psaume en total, il y a 150 psaumes. Ça couvre une période de 900 ans d'histoire. Il s'agit de l'histoire du peuple Israël. Depuis Moïse, qui a écrit le psaume 90, vers 1440 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 avant Jésus-Christ. C'est la période après le retour de l'exil de Babylone. Certains auteurs sont connus. Bon, David, Salomon, Moïse, les fils de Corée, Asaph, par exemple. Ce recueil le plus important, c'est vraiment, ils expriment le cœur et de l'âme de l'humanité. Ils couvrent vraiment une grande variété d'expériences spirituelles. Et il nous reflète comment, quelle est la relation sincère, profonde entre le peuple Israël, qui est le peuple de Dieu, et Dieu. Nous voyons que les psalmistes, dans la plupart du temps, ils sont dans les découragements, dans les désespoirs, presque devant la mort. Ils crient à Dieu, pourquoi ? Mais à la fin, vu en mémorisant tout ce que Dieu a fait dans le passé pour leurs ancêtres et pour leur peuple, ils gardent l'espoir en Dieu et ils s'attendent à Dieu, ils espèrent en Dieu, ils se confient en Dieu, coûte que coûte. Et vraiment, tout cela, ce psaume est très riche. Ça nous montre vraiment comment on peut vivre vraiment avec Dieu, avec une relation profonde, intime. Nous pouvons crier notre colère, notre désespoir, notre incompréhension à Dieu, mais ne jamais douter de la fidélité, de la bonté et l'amour de Dieu. Et ce que les auteurs de ces psaumes nous ont exprimé. Donc, c'est vraiment un bon recueil. J'ai choisi le psaume 1. Certains pensent que le psaume 1 a été écrit par Esdras au retour de l'exil. Et le psaume 1 montre deux manières de vie, deux catégories de personnes, et donc ça termine par deux destinées différentes. Finalement, ce thème, c'est le thème de toute la Bible. La Bible nous parle une lignée depuis la chute d'Adam. Adam qui a choisi son indépendance par rapport à Dieu, qui a choisi de désobéir à Dieu. Ça devient, il y a un peuple plus tard, une lignée qui choisit à respecter Dieu, à craindre Dieu, et une autre lignée qui tourne le dos à Dieu. Voilà, nous allons voir ensemble sur le chemin du juste. Vous allez voir le juste, sa manière de vivre. Les critères sont la Bible. C'est donné dans le psaume 1. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, l'auteur commence par trois impératifs négatifs. marcher, à s'arrêter ou s'asseoir, c'est imagé, hein, mais ça veut dire la manière de vivre des gens méchants, pécheurs et moqueurs. Donc ne pas vivre la même manière que eux. Par contre, la Bible nous donne une autre expression pour le juste. Voilà, c'est dans le proverbe. Oui, ça c'est dans le psaume 1. Il dit que ça, quand il donne un impératif positif, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, méditer jour et nuit. Ensuite, il y a dans le proverbe 1, 7. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et dans le psaume 119, voilà, j'aime beaucoup, en ce moment je suis en train de lire le psaume 119 et je vous partage ce passage avec vous. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui ne marchent pas dans ses voies. Voilà, en total, pour résumer, ce que c'est le juste d'après la Bible. C'est une personne qui ne se confie pas en lui-même, ne met pas sa confiance en l'homme, mais qui se confie en l'Éternel, qui espère en l'Éternel, qui remet sa vie entre la main de Dieu. Et même, il aime la loi de l'Éternel, médite jour et nuit. Alors, je vous parle un peu du contexte à l'époque quand l'auteur écrit. Il est israélite, il écrit pour ses contemporains, qui sont le peuple Israël, l'Ancien Testament. C'est Dieu qui les a formés à travers Abraham jusqu'à Isaac et Jacob. À partir de 70 hommes, ils sont rentrés en Égypte. Ensuite, ils ont tellement béni par Dieu, ils sont tellement multipliés, deviennent un peuple. Et à travers Moïse, ils étaient sous esclavage et Dieu les a délivrés de l'esclavage d'Égypte. En sortant d'Égypte, Dieu les a amenés dans le désert. Ce n'est pas par hasard, parce qu'ils étaient pendant 400 ans dans la culture égyptienne avec plein d'idoles, plein de cultures païennes. Donc maintenant qu'ils sont le peuple de Dieu, Dieu les a amenés dans le désert. Désert, il n'y a rien à faire. Donc, il y a juste Dieu avec eux. Dieu a voulu que vraiment qu'ils passent un temps mis à part. Nous avons vu saint, c'est mis à part. Comme Dieu est saint, mis à part. Dieu les a mis à part dans le désert pour qu'ils aient un temps de décompter tout ce qu'ils ont reçu de la culture égyptienne. Et c'est à partir de Mont Sinaï, Dieu leur a donné les 10 commandements et la loi à travers Moïse pour les apprendre comment vivre une vie avec Dieu qui est saint et comment vivre entre eux en paix. À travers la loi et les commandements, Dieu forme son peuple. Donc, vu le contexte de l'époque, normalement, tout le peuple Israël doit connaître les commandements, puisque Dieu a donné l'ordre dans Deutéronome 6, de 5 à 9. Dieu leur a demandé, « Écoute, Israël, Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout son cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, vous voyez ici, Dieu leur commande de retenir les commandes de Dieu, pas seulement pour eux, mais pour aussi ses enfants. Et pas seulement une heure. C'est quand tu es chez toi, donc à l'intérieur de la maison, en voyage, à l'extérieur de la maison, même vous êtes en vacances, ou au travail, ou à l'école. Quand tu te coucheras, donc c'est le moment de soir, La nuit, quand tu te lèveras, c'est le matin. Donc, vous voyez, c'est presque permanence, n'est-ce pas? 24 heures sur 24. N'importe où qu'on va, n'importe quand qu'on est, Dieu, à l'époque, demande à son peuple de retenir ses commandements. Et c'est pareil pour le psaume 1, il a dit, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a dit, il ne m'a pas dit, je médite que le matin. Il a dit, je médite jour et nuit, frères et sœurs, jour et nuit. Donc vous voyez, Daniel, qui est quelqu'un, qui est un prophète, qui est très pieux, il prie le Seigneur trois fois dans la journée. Voilà, pour nous dire que vraiment, le juste, c'est quelqu'un qui décide de vivre une vie centrée sur Dieu, mais pour centrer sur Dieu, a besoin de connaître Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, Christ, c'est Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si on veut que Christ vit en moi, si je veux que Christ vit en moi, je dois connaître Christ. Pour connaître Christ, je dois connaître sa parole. C'est sa parole qui apprend sur sa personne, sur son œuvre, sur tous ses caractères. Et si je ne lis pas la Bible, je peux bien chanter ce chant et Christ ne peut pas vivre en moi. Si je ne connais pas Christ, je ne garde pas sa parole en moi. Donc, c'est à notre époque, nous sommes sauvés par grâce. À l'époque, le peuple Israël a été choisi par Dieu, c'est par l'amour, par grâce. Et nous, c'est pareil. Nous sommes choisis, déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ. Paul nous l'a dit dans Éphésiens. Nous sommes sauvés par grâce. Cela ne dépend pas de nous. C'est un don de Dieu. Donc, cela ne dépend pas de nos œuvres, afin que personne ne se vante. Vraiment, pareil, nous sommes le nouveau peuple Israël, donc c'est pourquoi j'ai pris ce psaume pour vraiment nous encourager les uns les autres, vraiment lire la Bible régulièrement. Vous voyez ici, il parlait de méditer. Donc, pour pouvoir méditer, ce n'est pas dire lire une fois. C'est lire plusieurs fois, pour moi, hein, c'est retenir pour pouvoir méditer par la suite. Mais c'est vrai, si on médite les versets, même quand on conduit, c'est ce que je fais, je peux méditer les versets pendant que je conduis. Ou sinon, quand on prend le métro, quand on est dans le RER, n'importe où qu'on veut, on peut le faire, si on veut. Si on place Dieu en priorité. Parce qu'à notre époque, nous sommes vraiment entourés de toutes les normes qui sont différentes, opposées de ce que la norme de Dieu nous donne, pour ne pas être influencés, attirés par tout ce qui vient du monde. Nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu qui est en nous tout le temps. C'est aussi ce que Jacques a dit, approchons-nous de Dieu, il s'approcha de nous, résistons au diable, il fuira loin de nous. Et Paul nous a dit aussi, la parole de Dieu, c'est pas l'épée de Star Wars, mais c'est une épée encore plus efficace, une épée à double tranchant, qui peut séparer jusqu'à l'âme et l'esprit. Voilà, Dieu nous a donné les armes, c'est à nous de s'en servir. Si on ne s'en sert pas, tant pis pour nous. Voilà, donc la Bible est vraiment, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons plus de grâce que, pour moi, les Israélites de l'époque, parce qu'eux, ils n'ont que l'Ancien Testament. Alors que nous, on a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et tous les mystères, toute la prophétie que Dieu a cachée pour ses prophètes, qui cherchaient à connaître, Dieu ne les a pas révélés. Par contre, Paul a dit, il nous a révélés à nous. Donc, on a vraiment, nous qui sommes disciples du Seigneur, on n'a aucune excuse de ne pas lire cette Bible. En plus, Jésus nous a dit, dans Matthieu 4:4, quelqu'un connaît? Oui. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que nous, pour notre corps physique, on doit manger une fois par jour. Ben non, on mange petit déjeuner, déjeuner, dîner, parfois goûter. Et les Chinois, ils mettent le siouyé encore le soir, à minuit. Si on traite tellement bien notre corps physique, nous, notre corps spirituel, est-ce qu'on va mettre à la diète, au régime? Ben non, il faut aussi les nourrir. Voilà, donc pour le Seigneur, c'est méditer jour et nuit. Bien sûr, vous allez me dire, vous êtes au travail, vous ne pouvez pas. Mais il y a quand même moyen. Le matin, en se levant, je peux prendre un temps pour lire. Laurent, il a fait ça, il a avancé son réveil une demi-heure plus tôt. Il se lève plus tôt, une demi-heure, il prend une demi-heure avec le Seigneur. Et pendant cette demi-heure, si on retient la parole, dans la journée, même si au travail, à l'école, on a toujours les récréations, on a un temps libre. Là, on peut aussi laisser la parole de Dieu travailler en nous. Même parfois, on n'est pas obligé de penser, mais si on retient la parole, il me semble, la parole va agir en nous sans que nous en rendions compte. Et là, c'est vraiment super. Et je remercie le Seigneur parce que pour mon travail maintenant, actuellement, parfois dans mon travail, j'ai le temps de réfléchir, de penser aux versets bibliques. Ça, je vous encourage vraiment à le mettre en pratique. Ça donne vraiment de l'énergie et de la joie, comme Mike a dit tout à l'heure. Donc, le Seigneur donne la joie. Si on pense au Seigneur, sa parole, il nous donne la joie. La Bible est vraiment la meilleure guide, une guide pour avoir la vie éternelle. Quand nous partons en voyage, nous achetons des guides de routard. Mais ça ne sert que pour aller dans un lieu, dans un pays. Alors que la Bible nous guide vers un pays éternel. Donc c'est vraiment, il ne faut pas vraiment, pas laisser à la poussière, mais plutôt le feuiller jour et nuit. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à ne pas gaspiller notre temps. Vraiment, voir le temps, quand est-ce que chaque moment, on a pris le temps pour lire la parole de Dieu ou pas. Et ensuite, là, il parle que... Le psalmiste dit que le juste, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans l'Ancien Testament, l'arbre verdoyant symbolise la bénédiction de Dieu, quelqu'un qui est béni. Et Dieu est considéré comme la source d'eau vive. C'est pour ça qu'il compare le juste, la vie du juste comme un arbre planté près d'un cours d'eau, parce qu'il est attaché à Dieu. Donc, on va recevoir toute l'énergie, toute la bénédiction de Dieu. Ensuite, il dit « tout ce qu'il fait réussit ». Alors ici, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Ce n'est pas parce que, comme on l'a vu l'autre jour, un trac, si vous croyez en Jésus, vous êtes milliardaire, vous avez tous les voitures de course que vous voulez, et voilà, X femmes ou je ne sais pas quoi encore. Mais ici, ce qu'il veut dire, le psalmiste, c'est que puisque le juste, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu, qui s'attend à Dieu, qui espère en Dieu, qui se confie en Dieu, qui a la parole de Dieu en lui en permanence. Donc, tout ce qu'il fait, il met Dieu en priorité, la première place. Donc, il va se conduire selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il va faire comme dit dans Matthieu 6, 33, rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste sera donné par la suite. Voilà, dans tout ce qu'il fait, il va le faire en conforme avec la volonté de Dieu. Donc c'est bien sûr qu'il va réussir. Je vous donne l'exemple, par exemple, dans la Bible, il y a Joseph, Esdras, Néhémie et Daniel. Ce sont des hommes vraiment pieux et justes. Donc, c'est vrai, tout ce qu'il fait réussit. Mais je ne vous promets pas que vous serez Premier ministre de la France parce que vous êtes juste. Là, c'est simplement donc, à l'époque. Voilà. Alors, je vous invite vraiment de prendre un temps, là, en groupe, par deux ou par trois. Est-ce que chaque jour, chacun de nous a vraiment pris du temps pour méditer, lire déjà, lire et méditer la parole du Seigneur, prier? Je vous laisse 5 minutes. Ça va, vous avez fini? Il y a une ou deux personnes qui peuvent partager un peu? Pas de timide. Partagez votre expérience pour s'encourager les uns les autres. Personne? Non? Ce côté-là? Non, personne? Personne non plus? Oui? Pardon? Partagez ce que vous avez partagé entre vous. Est-ce que vous, dans toute la journée, est-ce que vous lisez la Bible, méditez la Bible? Oui, Anne-Marie? Alléluia, amen. Bon, il n'y a personne d'autre? D'accord, ok, d'accord. Alors, je vais continuer sur ça, méditer jour et nuit. Parce que quand on parle d'aimer, aimer, c'est tout le monde sait, tout le monde sait ce que c'est, surtout les amoureux. Quand on s'aime, on veut passer du temps avec l'autre personne, de plus en plus. Et pour votre époque, c'est bien parce que les téléphones et les portables sont illimités. Alors qu'il y a 30 ans, 40 ans, ce n'est pas illimité. Puis si on papote trop au téléphone, la facture est... Voilà. Donc, vous passez du temps avec la personne que vous aimez beaucoup. C'est pareil, la maman avec son bébé, ou etc. Alors, si on chante, on dit qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, et si on passe 10 minutes avec lui chaque jour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on aime le Seigneur, comme Dieu l'a dit dans Deutéronome 6, tu es dehors, tu es dedans, quand tu dors, quand tu te lèves, pensez à mes commandements. Comme le psalmiste aussi, méditez jour et nuit. C'est vraiment vital pour notre vie spirituelle, frères et sœurs. Je répète tout le temps, mais je trouve que c'est vraiment important que vraiment on soit vraiment ancré en Christ. Et c'est pour cela que Jésus l'a dit dans Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pareil. Attaché à Jésus, ça veut dire attaché par la parole. Avoir la parole de Jésus en nous, demeurer. Si on demeurait dans sa parole, bah, Jésus demeure en nous. Donc, comme on a dit, tout ce qui fait réussir. Donc, on portera du fruit. Et le fruit, c'est aussi pour glorifier Dieu le Père. Et là, Jésus, il est très, très catégorique. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je vais dire, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc, pas par notre force, pas notre énergie, vraiment par la parole du Seigneur, par son Esprit Saint. Donc, vraiment, je trouve que parfois, vous pouvez me dire, je suis fatiguée. Pour moi, c'est un prétexte. Ça dépend comment tu classes ta priorité. Si vraiment Dieu, c'est en première place, ou bien tu places ton travail en première place, ou ta femme en première place, ton mari en première place, ou autre chose en première place, c'est sûr que tu donnes le temps à cette première place. Mais tu mets Jésus-Christ en première place. Je ne pense pas que tu vas dire que je travaille trop et je suis fatiguée et que je n'ai pas le temps. Et je pense que cette phrase-là, tu vois, si tu es devant le Seigneur, tu vas lui dire ça. Je ne pense pas qu'il va te dire « Ok, d'accord ». Je ne pense pas. Donc, vraiment, placer le Seigneur Jésus en première place, bien sûr, on va 24/24, si personne ne peut le faire, mais vraiment, quand on peut, on prend le temps, on lit sa parole, surtout méditer si bien. On n'est pas obligé de lire 24/7, mais on peut méditer tout le temps. On a un verset ou deux versets dans la tête, on médite tout le temps, n'importe où on va. Et là, Dieu agit en nous et Dieu travaille en nous. Et ça, je peux vous le partager. Moi, j'ai vécu par ça. Je vous ai dit, l'année 2015, c'est une année d'épreuve pour moi. Là, maintenant, je suis médecin scolaire. C'est ce que j'aurais jamais rêvé, même dans mon rêve, le 1er janvier 2015. Donc, ça m'est arrivé. J'ai eu une épreuve. Pendant 2 semaines, je ne dormais pas. Et j'avais un psaume dans ma tête. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, que ta louange soit dans ma bouche. Exaltez l'Éternel, que les malheureux écoutent et réjouissent avec moi. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de mes détresses. Quand j'ai reçu ce psaume-là, mes détresses, j'ai remis au Seigneur. Et au bout de 2 semaines, j'ai réussi à remettre toutes mes frayeurs, toutes mes détresses au Seigneur. Et à partir de là, je dors. Vous voyez, c'est les psaumes, et pendant ces moments de détresse, je cherche dans les psaumes qui parlent comme ça, qui dit que le Seigneur est compatissant, miséricordieux, il nous relève, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écrasons nos ennemis. C'est en lisant tous ces parole de Dieu qui m'a encouragée, qui m'a réconfortée et ça m'a permis de dire « Ouf, je suis debout, je ne veux pas submerger par les eaux. » Et vraiment, je veux retenir les versets, peut-être quand tout va bien, peut-être ça n'aide pas. Mais le pasteur a prêché la semaine dernière, même tout va bien, on doit être dans la joie, remercier le Seigneur. Donc si on retient certains versets, quand tout va mal, il y a aussi un verset que vous connaissez bien, Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. Quand une tuile nous tombe dessus, on va réciter ce verset-là pour dire, oui, Dieu a permis ça, mais ce n'est pas pour m'écraser. C'est surtout pour me tailler comme le sarment et pour que je grandisse encore dans la foi. C'est la parole de Dieu est franchement est vivant et efficace, comme dit dans Hébreux. Hein. Voilà. Donc vraiment, alors, on va voir la destinée. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Voilà, le Seigneur nous promet la couronne de la vie. Il y a beaucoup de versets, mais j'ai choisi celui-là. Et puis, dans le psaume 1, il dit, l'Éternel connaît la voie du juste. Connaît la voie du juste, ça veut dire l'Éternel a une relation intime avec cette personne et il le garde, même son âme, dans la vie éternelle. Et aussi, j'aime beaucoup, dans Apocalypse 21, 3 à 4, j'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » J'aime beaucoup ce verset. Quand je suis découragée, je récite ça. Et je vous assure, quand je pense à l'avenir que Dieu me préserve, c'est franchement, il n'y a plus de mort. Donc, il n'y a plus de maladie. Donc, les médecins sont au chômage. Infirmière, pareil, super. Il n'y a pas de deuil. Donc, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de cri. Parce qu'il n'y a plus de détresse, il n'y a plus de frayeur, donc il n'y a pas de cri. Il n'y a que la joie. L'amour, la joie, la paix. Vous n'avez pas l'air d'être en tout-isant, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, vraiment, quand j'enseigne aux jeunes, je leur conseille de réciter ce verset par cœur. À chaque fois, je leur ressors jusqu'au jour, ils retiennent par cœur. Voilà, donc ça, c'est la destinée que Dieu réserve pour nous, les justes. On va voir l'injuste, l'impie. Voilà, l'injuste et l'impie. Alors, ou bien le méchant ou le pécheur, sa manière de vivre, c'est un homme qui ne confie pas dans le Seigneur. Dans Jérémie 17, 5 à 6, voilà, voici que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés de désert, une terre salée et sans habitants. Donc, résumé, c'est un homme qui ne se confie pas en Dieu, qui croit en lui-même, qui se confie qu'en lui-même, qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Dans l'époque du psalmiste, les Juifs, on a vu tout à l'heure, ils sont censés de connaître les commandes de Dieu, puisque Dieu les a donnés à travers Moïse et leur a demandé aux parents de parler aux enfants suivants. Mais malgré tout ça, ils ont quand même choisi volontairement de rejeter les commandements de Dieu. Et nous, à notre époque, Paul l'a très bien dit dans Romains 1, 19 à 21. Voilà, donc en gros, peut-être que vous connaissez bien ça, c'est que, je vais résumer, quand on regarde la création, tous les merveilles que Dieu a créées, les hommes n'ont pas reconnu que l'homme est le créateur. Ils ont suivi Darwin dire que l'homme vient du singe. Donc du coup, ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, que Dieu devrait recevoir. Ils se sont inventés des choses de créatures. Voilà, et vous voyez maintenant le tour de Babel. Les hommes sont en train de refaire la même chose. La première tour, le plus haut, c'était, je ne sais plus où, j'étais à Taïwan, c'était 101 étages. C'était le plus haut pour une époque. Et maintenant, c'était à Dubaï. Mais bientôt, il y aura une autre ville. Donc, c'est une course pour la hauteur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme à l'époque de Tour de Babel. L'homme essaie de construire plus haut pour atteindre le ciel. Ils n'arrivent jamais. Mais Dieu, il est obligé de descendre du ciel pour regarder. Donc, vous voyez, il n'y a rien de changé. Comme dit Ecclésiaste, rien de neuf sous le soleil. L'homme, depuis la chute, il a choisi l'indépendance, tourné le dos à Dieu. Il veut chercher que sa gloire. Et là, il veut trouver celui qui a le tour le plus haut, ben c'est le plus célèbre. Voilà, ils mènent leur vie selon leurs mauvais désirs et leurs passions, comme Paul nous a dit, et ce que nous étions aussi autrefois. Et leur destinée, ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà. La paille ou la balle, c'est la même chose. C'est l'enveloppe du grain de blé. À l'époque, c'est une société agricole. Donc, après les récoltes, ils prennent les grains de blé, ils mettent dans un gros panier, ils faisaient le vanage, ils le secouaient pour que les grains sautent en l'air. Et quand ils sautent en l'air, l'enveloppe qui est léger sera séparée des grains qui est lourd. Donc, ça va tomber par terre. Donc, on va récupérer le blé qui est sans enveloppe. Et la paille, ça sera emportée par le vent. Ça, il sépare comme ça. Et là, il compare que la vie des méchants, ça veut dire qu'ils ont une vie sans valeur aux yeux de Dieu. Même s'ils ont été riches, célèbres, ou je ne sais pas quoi, mais pour Dieu, c'est zéro. C'est nul. Ce n'est pas ça qui va leur faire gagner la vie éternelle. Et en plus, ça sera la ruine éternelle. Ils seront séparés éternellement de la présence de Dieu. Je vais vous peut-être passer juste rapidement. Clément, puis encore. Passe. Oui. Oui, on va voir Apocalypse. Tous ceux qui ne. Dans Apocalypse 20, verset 15, c'est le contraire de tout à l'heure. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. En fait, les temps de feu, on n'a jamais été, donc on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un endroit où il n'y a plus présence de Dieu. Donc, séparation. Paul parle de ruine éternelle, c'est séparation éternelle de Dieu. Alors que nous, dans le nouveau ciel, nouvelle terre, on sera toujours avec Dieu. Voilà ce que ça donne. Quand on est vivant, on peut choisir. La manière de vivre du juste, se confier dans le Seigneur, espérer en lui, mettre notre vie entre sa main, ou bien choisir la voie de l'impie, tourner le dos au Seigneur, ne pas le reconnaître comme Dieu, Créateur, et vivre notre manière de vivre, satisfaire tout ce que notre cœur tortueux qui nous dicte, mais la destinée, ça sera séparé éternellement de Dieu. Le psalmiste nous a écrit tout cela parce que lui, pour conclure, il a choisi la voie du juste. Puisqu'il a mis beaucoup de versets pour parler sur la vie, la manière de vivre du juste. Et vous voyez que sur le psaume a commencé par « Heureux, l'homme qui ne marche pas, l'homme qui ne suit pas la voie, la manière de vivre du méchant. » Et termine par « Ruine. » Donc c'est une mise en garde à ceux qui choisissent le chemin de l'injuste. Donc c'est vers la ruine éternelle. Et en tant que nous, en tant que chrétiens de nos jours, nous sommes déclarés justes par le Seigneur, par notre foi. Donc, si nous aimons le Seigneur, souvent dire que Christ habite en nous, vraiment, je vous encourage, vous avec moi, à partir d'aujourd'hui même, ou l'année prochaine, vraiment, nous engager à vraiment lire plus la Bible, mettre plus de temps avec le Seigneur. C'est vrai, il n'y a pas seulement que la lecture, la méditation, mais aussi la prière. Vraiment, tout ça, ensemble, pour nous encourager à grandir ensemble, vraiment, plus attachés ensemble au Seigneur, pour qu'il y ait un réveil spirituel en France. Parce que la France a besoin des chrétiens qui prient pour la France, pour la société, pour tout ce qui se passe. Et nous, à partir de nous, si nous avons une relation verticale, intime avec Dieu, nous allons être vraiment bien aussi horizontalement avec les autres. Voilà, c'est vraiment mon vœu pour moi, c'est que j'arrive à le faire et que vous tous aussi, on va le faire ensemble. L'année prochaine, décembre 2016, nous allons faire le bilan ensemble. J'espère qu'on va dire, ah oui, j'ai avancé, j'ai fait plus, j'ai fait des efforts. Et je vous rassure, hein, tout cela, ce n'est pas pour me faire plaisir à moi. C'est au Seigneur Jésus que vous faites plaisir. C'est vraiment pour le bien de chacun de vous. Il faut, quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas à manger que l'entrée. Vous allez prendre l'entrée, plat principal, dessert, fromage, dessert, Il y a l'apéro encore avant. Voilà. Donc, pour la Bible, pour la parole du Seigneur, faites un plat copieux. Quand vous faites maintenant, il y a le repas de Noël, le repas de Nouvel An. En plus, avec le repas du Seigneur, il n'y a pas d'indigestion. Voilà. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés en première et que tu t'es sacrifié à la croix pour nous. Et tu as accompli toute la mission que le Père t'a donnée. Merci pour ta parole qui nous a laissée. Oh Seigneur, donne-nous vraiment ce cœur qui a faim et soif de toi et vraiment qui aspire à te lire, à te connaître et vraiment te chercher de tout notre cœur. Bénis chacun de nous et que nous puissions faire vraiment te mettre en priorité et vraiment que ta parole agisse en nous, que nous sommes priés comme la lumière dans ce monde et que nous puissions acclamer, annoncer ta bonne nouvelle par là où tu nous mets. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Et je vais vous donner voilà, ce verset. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain détourné. Mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen.